Alors, on va reprendre avec la prochaine communication qui va être présentée par Julie Gagnon. Alors, Julie est étudiante à la maîtrise au département des arts et lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle nous propose aujourd'hui une communication intitulée « Anthropologie de l'incohérence dans Pourquoi Bologne » d'Alain Parra.
Merci. Bonjour tout le monde. Dans son dernier roman « Pourquoi Bologne », Alain Parra explore la littérature comme une remède à, une psychose. Construisant un dédale où l'on se perd entre les époques, les états et les histoires de l'auteur-narrateur, le récit est bien plus qu'une solution à la folie. L'écriture est son terrain de jeu pour exprimer la douleur et la complexité d'être. Il s'amuse à y ériger des mondes et aussitôt à les défaire, puisque pour Alain Parra, l'individualité ne s'articule pas à l'intérieur d'une unité cohérente et logique. Cette communication s'intéressera donc à la capacité du personnage contemporain à fournir une nouvelle conception de l'être humain. Pour tout dire, le texte de Parra requiert que l'on déplace les paradigmes pour rendre intelligible, pour circonscrire une anthropologie. Ainsi, je me ferai un devoir de reconfigurer la mémoire et le temps tels qu'ils sont articulés dans le texte, afin d'ouvrir sur l'expérience humaine témoignée par le personnage de ce texte. Posture mémorielle. D'emblée, pour comprendre pourquoi Bologne, il est nécessaire d'éclairer la posture auteur-narrateur qui s'est imposée d'entrée de jeu dans mon introduction. Alain Parra se met en scène dans son roman à la manière de l'autofiction et devient donc un auteur-narrateur-personnage tel que décrit par le Pacte de Lejeune. Ficelant autour de cette même identité, faisant des clins d'œil biologiques et biographiques, s'amusant dans la fiction, le texte de Parra, comme nous le verrons, fait une expérience avec sa propre histoire. Puisque Parra se sert de l'autofiction pour écrire ses plaies, pour parler de, je cite, « ce dude qui souffre ». Il fragmente son histoire pour mieux la saisir, il se fictionnalise et joue avec le biographique. Chloé Delhomme, dans La règle du jeu, énonce à ce sujet, je cite, « une fictionnalisation de soi, lucide, assumant ce qui échappe au soi par l'inconscient, loin, très loin de la crédulité de l'autobiographie. » Crédulité de l'auteur qui pense que sa mémoire est sa meilleure alliée et qu'il peut se livrer comme il va à confesse. Crédulité du lecteur qui gobe tout rond le pacte teinté d'une vérité toujours javelisée. Comme si les souvenirs stockés dans le cortex n'étaient jamais soumis aux modifications, à la reconstruction. Comme s'il était possible de lui faire vraiment confiance. Fin de la citation. Parra a la conscience qui lui échappe, la mémoire qui ne lui appartient pas toujours, le temps qui lui glisse sous les pieds. Il ne peut pas se faire confiance pour se raconter et pour dire la vérité à son sujet. Son intériorité en est une de souffrance. Il cherche à travers les moyens de la fiction à se retrouver, à se définir, à s'ancrer. Et c'est l'absence de fiabilité de l'auteur-narrateur qui nous empêche en partie de la saisir, de saisir la mémoire de son entièreté, dans son entièreté, alors qu'elle parvient à se constituer à de très brefs moments. À plusieurs reprises, il parle de sa fille Émilie. Cette information sur la vie familiale du personnage nous est quelques chapitres plus tard dérobée par Candice, son ex-copine et aussi son assistante de recherche avec qui il entretient une relation très proche. Elle infirme sans aucun doute, je cite, « Mes professeurs, vous n'avez pas d'enfants. » Farah renchérit, et c'était qui, cette gamine blonde, si merveilleuse et si turbulente, que j'ai amenée à la garderie hier matin? Et Candice de lui répondre, « Mais hier matin, à l'aube, on vous a trouvé les deux pieds dans la neige devant Ravenscraig, pétrifiés par l'énigme de Bologne. » Fin de la citation. C'est un cycle interminable qui s'enclenche et qui nous demande de se positionner différemment face à sa mémoire. Ainsi, la posture d'Alain Parra joue avec le lecteur en construisant parfois une fausse mémoire, affirmant des éléments qui seront dès lors détruits, en jouant sur la chronologie pour permettre la confusion. En fait, la mémoire se saisit à contre-courant, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'expérience de déprogrammation de la mémoire s'insère aussi un processus d'inversion de la perspective temporelle. Parra rencontrera à plusieurs reprises le docteur Cameron, un spécialiste de McGill, pour discuter de ses incohérences, de sa confusion, et il recevra des cachets à ingérer. Alors que les choses devraient se fixer, c'est pour effacer une part de les choses devraient se fixer, reprendre leur cours normal, il sera au contraire victime d'expérimentation. Ainsi, lorsque Cameron effectue des expériences dans la mémoire de ses patients, c'est pour effacer une part de leur vie et la remplacer par une autre, qui est fausse. Cette programmation permet alors de retourner dans le temps, de voyager à travers les époques et de modifier certains moments. Ce qui frappe, c'est que ces personnages ont changé leur histoire sans y voir aucune répercussion à l'intérieur de leur présent. Or, le temps fonctionne comme la physique l'a établi, par un phénomène de cause à effet. les êtres humains posent chaque jour une multitude de gestes qui auront un effet, un impact dans leur existence à court ou à moyen terme. L'effet ne pouvant précéder la cause, leur vie se décline sous deux époques et ne concorde pas. Il y a absence de causalité. De plus, le fait de vivre à contre-courant les empêche de penser le temps et donc d'y voir leur cause à effet. L'articulation cohérente de leur vie leur fait défaut. Je cite « Maman, je ne peux pas retourner avant, je suis après ». Fin de la citation. Il semble alors pertinent d'avancer qu'un passage curieux fait irruption en plein centre du récit afin d'évoquer la naissance du personnage. Je cite « J'ai froid d'un coup, comme si pour la première fois j'avais une peau. Je passe d'un régime à l'autre, l'air devient ma nouvelle eau, je nais ». Fin de la citation. Il est le récit d'un événement dont personne ne se souvient et pourtant que nous avons tous vécu. Cette forme de mémoire que l'on pourrait nommer antérieure, héritée ou imaginée revient fréquemment au sein du texte. Cependant, il ne faut pas confondre mémoire antérieure au sens de vie antérieure. Il n'est pas question de réincarnation ici, mais bien de la construction d'une individualité qui se nourrit d'éléments épars, dont la mémoire d'autrui. Elle participe à cette façon d'éclater les limites conceptuelles de la mémoire. Cette dernière ne lui appartient pas toujours, n'est pas constamment le fruit de ses expériences. Alain Farah exprime sa nécessité de raconter ses histoires, malgré la folie, les capsules, le travail effectué sur sa mémoire. Finalement, on peut noter une certaine implication de l'intertexte à l'intérieur du phénomène mémoriel. L'auteur-narrateur écrit la mémoire d'une histoire qui ne lui appartient que partiellement. Je cite « Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord l'avoir vécue. Aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris, puisque je n'existe pas. » Fin de la citation. Ce mélange de matières textuelles, leurs provenances diverses, font appel à cette mémoire décousue. Ils témoignent de cet éclatement profond au cœur même de l'auteur-narrateur et de son individualité multiple. Pastichant le film « Les ordres », il déclare « Moi, je m'appelle Alain Farah et dans le livre, je suis Alain Farah ». Fin de la citation. Lui-même naviguant à travers diverses époques, divers mondes, divers états, divers postures, il s'articule et s'ancre au milieu de ce monde qui l'échappe et qui lui parle à la fois. Malgré tout, il s'en sert pour affirmer son individualité, son incohérence parfois et sa posture mémorielle décalée. Et c'est donc à l'intérieur de la mémoire du monde, des êtres humains et de ce qui fonde sa culture qu'Alain Farah inscrit, je cite, « le mouvement de sa propre mémoire ». Fin de la citation. Je passe à la posture temporelle. Il n'y a pas de ligne de temps à proprement parler qui traverse le texte et accompagne sa progression de manière fiable et structurée. Tous les repères traditionnels nous échappent. Les marqueurs de temps, comme les références au monde réel dans la fiction, sont constamment susceptibles de nous trahir. En effet, ici, le temps est problématique et c'est précisément parce que c'est l'auteur-narrateur qui le configure. En effet, la posture temporelle y contribue par sa mouvance, par son hétérogénéité narrative. Nous le verrons donc à travers cette seconde partie comment le temps est conçu dans le texte. Il semble primordial d'attaquer de front la configuration narrative puisque le récit des événements s'ancre autour de deux époques clairement énoncées et à la fois très précises, soit l'année 1962 et 2012, et qu'il est évident que celles-ci fondent l'expérience du temps de l'auteur-narrateur. Bien entendu, quelques souvenirs ou événements se centrent ailleurs qu'à ces deux époques, et heureusement, elles ne sont jamais très loin ou elles sont clairement pointées. 1912, 1975, milieu des années 90, par exemple. Dès lors, il est essentiel d'affirmer que le temps n'est pas chronologique, qu'il n'est pas fixe, et donc que le texte se traverse sans avoir une ligne de temps précise. Bien que le texte évoque des dates précises, en aucun cas elles ne sont le témoignage, l'articulation et même la configuration d'une perspective temporelle cohérente et significative. Dans une capsule, l'auteur-narrateur nous explique comment il a appris que Nab, son oncle, était décédé. Je cite. « Il neige encore, comme il neigera dans un an, quand je sortirai de ma consultation avec le docteur Cameron. Je brouille la chronologie, Candice m'en voudrait, mais le temps est malade et il n'est pas le seul. » Fin de la citation. À la suite de quoi il expliquera qui est Édouard, le fils de Nab. Farah brouille consciemment la chronologie, ne respecte pas les lignes du temps, ni celles de la progression du récit. Il dévoile les éléments déclencheurs avant de les mettre en contexte et y revient par fragments à deux ou trois reprises à travers deux ou trois périodes de temps de l'événement ne permettant pas l'avancement. Ainsi, par absence de causalité, il faut entendre que leur existence ne s'articule pas de manière cohérente, que les causes à effet ne concordent pas et que la trame narrative peut bien être mélangée, elle ne propose tout de même pas une vision progressive et structurée du personnage. Dans un tout autre ordre d'idée, la narration est en constant regard sur elle-même. Je cite « Mes pensées produisent des images qui n'existent pas, l'action se déplace dans le temps et l'espace est... » Et l'espace de façon imprévisible. C'est difficile à décrire, le lieu physique qui sert de décor à la scène se maintient. On est en 1962. On inaugure la place Ville-Marie le 13 septembre 1962. Fin de la citation. Farah s'interroge, se positionne, argumente et délaisse l'histoire au profit de commentaires sur l'événement. Il est donc toujours en mouvement dans le temps, mais aussi entre ses pensées et le déroulement du récit, entre ses postures d'auteur, de narrateur et de personnage. C'est précisément ce mouvement qui nous permet d'accéder à certaines informations à propos de sa santé mentale, aussi à propos de sa conscience de l'incohérence du récit. L'auteur-narrateur agit sur deux fronts et s'en amuse souvent. Malgré l'indéniable confusion qui le mène et qu'il avoue d'entrée de jeu, le récit continue de construire, de déconstruire et de coincer le lectorat dans cette configuration. Si nous reprenons l'exemple de sa fille, Émilie, qui n'existe pas, elle revient tout de même à trois ou quatre occurrences dans le texte. La relation est ficelée, somme toute cohérente, malgré les dires de Candice. De plus, il joue sur les plans entre personnages et auteur-narrateur et il dialogue avec le lecteur. Ici, le « vous » du lecteur a sa place entière et Alain Farah n'hésite pas à interagir avec lui. Par exemple, je pourrais vous raconter longuement ma vie avec la huguenote, mais vous lisez un roman de science-fiction, pas un roman d'amour. Fin de la citation. Il joue dans le hors-texte, dans la réception du lectorat et travestit donc les frontières de la fiction en investissant celle du réel et de la lecture. De ces frontières peu étanches, on peut aussi dire que tout se passe sur le même plan, parfois à l'intérieur même du paragraphe. Les signaux de changement de registre sont presque inexistants. Le temps est une construction absolue dans Pourquoi Bologne. Incluant le passé et le futur dans son présent, il inscrit aussi les méandres de sa mémoire, de sa folie, au cœur de sa propre histoire, de ce qu'il croit vivre. L'auteur-narrateur ne fait donc aucune distinction entre les divers pans de son existence et place tout à la hauteur du réel. Fellini, après sa période néo-réaliste, se questionna beaucoup sur l'impossibilité de représenter le réel et abordant en tout point une pratique fort révélatrice du travail d'Alain Farah sur l'existence. Sa pratique fut d'ailleurs à quelques reprises interpellée par l'intertexte. Dans son film « Otto e Mezzo », Federico Fellini met en scène Marcello Mastroianni pour jouer son double et raconter ses doutes face à sa capacité de faire un nouveau film. Comme « Pourquoi Bologne », ce film joue de nombreux tours d'illusion, ment, déforme et ne suit pas toujours les principes de la cohérence narrative. C'est que Fellini place le réel, le fictionnel, le biographique, le fantasmé, le rêvé, le passé et le futur sur le même plan de caméra, sur la même scène de film. Il ne hiérarchise ni ne signalise aucun registre, aucun monde, puisque pour lui, c'est une façon de raconter l'existence, de rendre compte d'une part du réel, et de son réel. Et c'est précisément ce travail sur le monde et sur l'être que fait Alain Farah en racontant son histoire en constant mouvement. Les deux artistes nous rappellent que nous sommes loin d'être des individus fixes et que ce qui nous constitue ne relève pas de la logique et du calculé. Leur histoire est chacune le résultat d'un travail sur le mouvement de la pensée et de l'être dans le temps. Enfin, je cite, « Ces histoires, aussi bien le compressé d'entrée de jeu, je les mets en pièces sans autre nécessité que celle de traduire l'expérience télescopée de mes époques. » Fin de la citation. De cette façon, il est donc clair que le temps et l'être dialoguent de manière aussi peu structurée dans l'unique but de faire ressortir ce qui compte, ce qui est signifiant, ce qui rend perceptible l'expérience. Les événements sont fragmentés, la chronologie est brouillée et c'est pour mieux raconter son existence. Puisque si le temps est décloisonné et que la configuration est si morcelée, c'est que Alain Farah a besoin de déconstruire les bases établies pour mieux poser les siennes, celles qui correspondent à son individualité. Le temps et la mémoire ont été ici traités afin de mieux définir leur réactualisation au sein du texte parce qu'ils servent en tout point la conception du monde et de l'être de l'auteur-narrateur. Anthropologie de l'incohérence. C'est donc pour atteindre ce point culminant de ma communication que les postures mémorielles et temporelles ont été élaborées précédemment. Pour parler de l'être humain et de son anthropologie dans le texte, il était inévitable de passer par l'analyse de ces deux concepts qui s'inscrivent à contre-courant au sein de l'histoire. Ils sont indispensables pour penser l'existence chez Alain Farah parce qu'il est évident qu'une nouvelle conception temporelle et mémorielle ouvre sur une nouvelle conception de l'individu. Ils sont indispensables pour penser l'existence... Je suis désolée. À de nombreuses reprises, il a été question d'incohérence, d'illogique, de déconstruction et de contre-courant. Et c'est précisément parce que c'est la partie de l'existence humaine mise de l'avant dans ce texte. La conception que pourquoi Bologne transmet de l'être et de son individualité est difficile à circonscrire. D'ailleurs, Alain Farah déclare, je cite, « Non, je ne suis pas sociologue, la confusion est ma méthode. » Fin de la citation. Comme il a été élaboré plus tôt à travers le temps et la mémoire, l'incohérence est au cœur même du livre. D'entrée de jeu, l'aspect relationnel du personnage est fondamental pour penser entre l'anthropologie ici. Si l'on peut parler de mouvance de l'être, c'est grâce au regard que les autres portent sur Alain Farah et les relations qu'il entretient avec eux. C'est notamment ce miroir qui donne à voir le personnage sans essence fixe. Ils sont parfois imaginaires, fantasmés, inventés de toutes pièces, envahissant au témoignage d'une grande complicité. Les personnages qui peuplent le cercle social de l'auteur-narrateur permettent constamment d'en savoir plus sur l'état de Farah. Ils traversent le temps avec lui et font parfois partie de sa mémoire. Enfin, ils ne sont en aucun cas un gage d'ancrage solide. Cependant, c'est à travers l'autre qu'il expliquera les méandres de son intériorité, son aventure et son incapacité à les comprendre. Je cite, « Ce n'est plus moi qui veux, ce n'est plus moi qui agis, un autre est en moi, un autre agit à travers moi. » Fin de la citation. Cet être relève d'une individualité abstraite qui surgit à plusieurs moments dans l'histoire d'Alain Farah. Cet autre ne correspond pas à la cohérence qu'il donne à son expérience du monde. Il le pousse à se concevoir différemment, à se sentir différemment. La question relationnelle agit comme un reflet et laisse entrevoir des parties qui ne se voient pas autrement. Les autres sont un mode pour Alain Farah afin d'expliciter ce qu'il est incapable d'appréhender en son intériorité. Tout compte fait, pourquoi Bologne a sans aucun doute un penchant épistémologique. Dans une perspective de théorie de la connaissance, l'expérience de déprogrammation de la mémoire et sa mise en récit par Alain Farah relève d'un certain empirisme pour parvenir à la connaissance de soi. J'insiste ici sur l'expression « certain empirisme » employée puisqu'elle veut se dissocier de la philosophie de John Locke et de Francis Bacon, notamment, qui chercha à inclure la logique dans le processus. La posture ici se rapproche beaucoup plus de celle d'Hegel. Je cite « La source première de notre connaissance est l'expérience. Pour qu'il y ait expérience, il faut absolument parlant que nous ayons perçu une chose elle-même. » Mais on doit, en outre, distinguer perception et expérience. D'entrée de jeu, la perception ne contient qu'un unique objet qui est maintenant, de façon fortuite, aussi constitué, mais qui, une autre fois, peut être autrement constitué. Or, si je répète la perception et que, dans cette perception répétée, je remarque et retienne fermement ce qui reste égal à soi-même en toutes ces perceptions, c'est là une expérience. Mais l'expérience ne contient que l'universalité d'un tel phénomène, non la nécessité de la corrélation. L'expérience enseigne seulement qu'une chose est ainsi, c'est-à-dire qu'elle se trouve, ou donnée, mais encore les fondements ou le pourquoi. Fin de la citation. L'expérience en est donc une de l'incohérence de l'être. Sa temporalité, sa mémoire à contre-courant, sa maladie sont de l'ordre de la perception, et la récurrence se trouve à hauteur d'individualité. C'est-à-dire que ce qui est répété est la mouvance, la non-fixité de l'humain, son absence de cohérence, et ce, à travers, je cite, une expérience vécue et intime. Parallèlement, il est pertinent de s'interroger sur le caractère contrôlé de cette expérience. Je cite, « Et pour qu'il avance ce roman, je n'ai d'autre choix que de retourner à Ravenskrag pour y rencontrer à nouveau le docteur Canron. J'ai besoin de capsules, j'ai besoin de comprendre. » Fin de la citation. L'écriture est alors nécessaire à la compréhension de son être et par le fait même à la connaissance. C'est donc une expérience consciente dont il tente d'être le maître et d'écrire selon les codes du roman. Ainsi, cela n'implique pas nécessairement une opération réussie, et alors que l'on en doute tout au long du récit puisqu'il est, rappelons-le, fragmenté et illogique, on peut lire. Car dans tout ce que j'ai fait, du jour où j'ai écrit ma première phrase jusqu'à hier, jour de ma substitution, rien ne m'a autant rendu malade que mon incapacité à devenir un autre, une corneille, un tueur à gages, une mère souffrante, une soi-disant victime de la CIA. Mais désormais, je me sens bien, je suis Evan Cameron. Je ne suis plus prisonnier de moi, je sais créer autre chose, je sais devenir autre chose, je n'ai plus besoin de parler, je n'ai plus besoin d'écrire, je laisse les romans aux romanciers. » Fin de la citation. Evan Cameron a aussi réussi son expérience de déprogrammation. Il lui a redonné une nouvelle histoire, En définitive, on peut affirmer qu'il a atteint enfin la connaissance de lui-même, qu'il a compris que ses multiples incohérences n'étaient que le présage d'une nouvelle forme d'identité. Pour tout dire, la conception de l'être humain véhiculée par Pourquoi Bologne explore les failles de la construction dans la construction d'une incohérence générale chez les individus. Il est impossible de configurer une individualité de manière logique et cohérente à travers une existence complète en ce monde. En rassemblant des fragments épars, des moments marquants, des points d'ancrage, des époques particulières, l'identité chez Alain Farah représente toute la complexité de se définir, de vivre et de survivre avec les moyens de la littérature. Je cite, « S'habitue-t-on jamais à raconter des histoires qui ne fonctionnent pas? » Fin de la citation. Merci.
Merci beaucoup, Julie. Alors, on va passer encore une fois à la période de questions.
Oui. Je ne sais pas si on peut envisager ça un peu d'un autre angle. Personnellement, je ne remets pas du tout en question ton propos par rapport à la non-fiabilité, puis l'incohérence, puis tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est peut-être ma perception personnelle. Pourquoi Bologne, justement, toute l'incohérence, puis le « unreliability », comme on dit dans la critique anglo-saxonne, vient du fait que Farah met la performativité du langage un peu à un autre, à un niveau supérieur, c'est-à-dire que c'est un peu un projet de réécriture de sa propre histoire, de son propre récit. Donc, qu'est-ce qui est affirmé devient un fait. Donc, par exemple, par rapport à la petite fille Émilie, bon, il se dit qu'il y a une petite fille Émilie. Jusqu'à ce moment-là, c'est un fait, c'est vrai. Il y a Candice qui dit « Vous n'avez pas d'enfant, mais pourtant, c'est qui cette gamine blonde? » Tout ça, ça devient, en fait, ça découle d'un processus qui fait des mots, une vérité, un fait, et qui permet aussi à Farah de réécrire constamment son récit, de même que c'est sa mémoire, si on veut. Parce qu'une mémoire, c'est quoi? C'est un récit d'un événement qu'on internalise ou qu'on se fait. Donc, en l'écrivant, on y donne un peu valeur de fait établi. Donc, aussi les sauts temporels qui sont incohérents pour le lecteur prennent une certaine cohérence si on considère le fait que pour l'auteur ou le narrateur, parce que tous les rôles s'équivalent un peu dans ce roman-là, ça devient cohérent du fait que s'il le dit, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si... aussi par rapport à ce que tu as dit, l'empirisme, une espèce d'épistémologie, bon, et oui, c'est l'expérience qui prime, si on veut, mais c'est aussi le récit de cette expérience-là et le récit qui est constitué de mots, de langage. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Ben, j'avoue pas avoir envisagé véritablement cette avenue-là. J'avoue que c'est très intéressant. J'ai un peu de difficulté avec ce langage qui devient vérité, parce qu'on sait qu'il est difficile par le langage d'exprimer une certaine vérité. Puis aussi, c'est de l'autofiction, donc le rapport avec le biographique. Je sais pas qu'est-ce que t'en fais aussi de cette mémoire-là qui devient un fait, qui devient... J'avoue que la posture est très intéressante, mais j'y ai pas véritablement pensé. Et c'est ça, j'ai un certain problème avec justement ces postures auto-fictionnelles-là qui, bon, on va devoir dire que le langage est vrai et fait, puis finalement aussi qu'il y a travestissement, il y a réécriture et il y a...
Ah oui, tout à fait, c'est vraiment pas ça dans la question. Okay. C'est juste que j'ai... En fait, c'est peut-être mon expérience personnelle avec Farah qui parle à travers moi, mais c'est l'auteur qui, même dans sa vie, qui se met en scène constamment. Oui. Donc, c'est juste que moi, j'ai vu ça beaucoup dans Pourquoi Bologne, puis le fait que, dans le fond, il réécrit constamment sa propre histoire, il devient quelqu'un d'autre du jour au lendemain, il fait même du lecteur. Sa propre personne, quand il y a le passage où ça dit « Je suis Alain Farah », à force de lire ça, le lecteur peut en venir à se demander « Bon, je suis Alain Farah, moi aussi. »
Oui.
Donc, ça joue un peu dans cette espèce de projet global de posture de mise en scène.
Je vais noter et je vais relire avec cette vision-là. Merci beaucoup. J'avoue, malheureusement, pas avoir envisagé... cette partie.
Oui, ça dit.
J'ai pas lu le texte, on s'en est parlé, tu sais que je l'ai pas lu. Par contre, j'aimerais savoir, dans cette trinité-là, dans cet auteur-narrateur-personnage, on laisse l'auteur de côté, est-ce que le narrateur et le personnage sont sur le même plan? Est-ce qu'ils ont la même posture? Est-ce qu'ils vivent l'expérience en même temps? Ou le narrateur est détaché du personnage?
Ils vivent, oui.
Ils vivent en même temps?
Oui et non.
Parce qu'il y a un deuxième volet, en fait, tu pourras peut-être répondre en
globalité. Oui.
Est-ce que tu penses que c'est plus le sentiment d'un monde incohérent ou le sentiment d'être incohérent au monde de la part du personnage? Comprends-tu ce que je veux dire?
Oui,
est-ce que
absolument.
Lui se sent déphasé, décalé ou au contraire, c'est tout le reste qu'il est puis il essaie de se mettre au jour de
se mettre finalement dans le même temps que mm-hmm. que le monde. D'abord, pour répondre à la question d'auteur, narrateur, personnage, bien évidemment, à certains moments, il raconte ce qu'il est en train de vivre. Donc, le narrateur et le personnage sont souvent une partie, une entité. Et je dirais le plus souvent dans le texte, l'auteur et le narrateur sont sur le même plan. Il raconte l'histoire qu'il est en train de vivre, qu'il est en train de faire en action. Par contre, à certains moments, il raconte son futur ou son passé, j'ai l'impression qu'on peut distinguer le narrateur du personnage qui est en train de vivre. Je sais pas si tu comprends, la narration est comme au il ou à un jeu antérieur. Donc, j'ai l'impression que parfois, on peut peut-être séparer ces deux entités-là, mais le plus souvent, ils sont sur le même plan. Et pour répondre au deuxième volet, si le monde est incohérent ou si le personnage est incohérent, il est non fiable. Mais on n'a pas le choix d'y croire pour passer à travers le texte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... Mais je dirais que c'est lui qui est incohérent, mais le monde qu'il nous raconte est aussi, lui, fragmenté, épars et illogique. Donc...
En fait, je me doutais que le personnage est incohérent.
Oui.
Mais est-ce que lui se sent...
Incohérent au monde, oui, parce qu'il est conscient de cette maladie, de ce qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi il va consulter Evan Cameron, c'est parce qu'il comprend pas comment ça se fait qu'un matin, il se réveille, les pieds gelés devant Ravenscraig, et que, comment ça se fait que j'ai pas de fille Emily, alors que je croyais qu'il y en avait une. Il y a des incohérences au monde qu'il se rend compte, et il va rencontrer le docteur pour ça. Il croit prendre des cachets, et que c'est pour ça que ça se fixe, mais finalement, ça ne se fixe pas. Donc, oui, il vit une incohérence au monde et c'est aussi ça, l'expérience de connaissance de soi, c'est qu'il sait qu'il est incohérent au monde et il veut se connaître et il veut fixer ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Parfait. Mais d'autres interventions? D'autres questions? Oui, allez.
Il est encore sur mon bureau, faut que je le lise. Je me pose la question du contexte. La question, justement, du narrateur. Bon, si j'avais pris ta question, j'aurais dit, est-ce que ça aurait été envisageable que la narration se fasse au il et qu'il construise son personnage à distance? Bon, on a pensé là-dessus, mais l'autre paramètre, c'est celui peut-être des conventions. Parce qu'on est dans des enjeux de vraisemblance. Bon, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on est dans une représentation qui se veut fidèle à notre monde? Et jusqu'à quel point il y a des marqueurs pour nous dire on est ailleurs. J'aime bien penser au fait que les contes de fées proposent toutes sortes de choses étranges, mais c'est rare qu'on va penser que Cendrillon peut prendre son iPhone puis s'appeler un taxi à minuit. Ça fait pas partie de ce monde-là et il y a des conventions. Dans ce cas-là, est-ce que il y a des brides de science-fiction ou des éléments? Jusqu'à quel point les marqueurs de genre peuvent justifier ou au contraire faire en sorte que l'incohérence est encore plus forte dans ce qui se révèle finalement un roman réaliste. Cet élément d'incohérence-là peut faire partie d'un monde, mais d'un monde qui est génériquement balisé. Mais où est-ce qu'on en est?
Je vous dirais que mon expertise en science-fiction est plus ou moins, mais j'ai le sentiment qu'à certains moments on établit des balises justement de science-fiction pour excuser certaines incohérences ou baliser certaines incohérences, notamment dans ces moments où il rencontre le docteur Cameron et il met un casque d'électrode et il va nager dans la piscine, on voit bien que le casque d'électrode est un espèce d'élément scientifique qui va le faire ramener dans ses mémoires. Donc là, il y a à certains moments des balises qui nous permettent de faire une lecture qui n'est pas trop lourde dans cette incohérence-là. Or, à certains autres moments, comme j'expliquais, il y a une certaine phrase où on passe de où je ne sais pas si c'est dans cette version-ci, mais je racontais dans ma version de travail qu'il y avait une phrase où on commençait en 1975 et on finissait en 2012 dans la même phrase. Et il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas personne qui nous dit « Ah, ben là, on est rendu en 2012. » C'est toi, en tant que lecteur, que tu te rends compte que « Ah, ben ça fonctionne pas et il faut être rendu... » on est rendu en 2012 parce que, bon, ce texte-là, cette référence-là intertextuelle vient nous allumer que, bon... là, on est plus loin que 1975 parce que le texte n'était pas sorti ou ce personnage-là n'était pas encore raconté selon la chronologie. Donc, il y a encore des moments où ce n'est pas balisé et où ce monde-là incohérent ne se rapporte pas à un certain genre précis. Et je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Ça joue entre les deux.
Ça joue encore entre les deux, justement, avec même l'auteur-narrateur. Il y a toujours une fine ligne où est-ce qu'on va jouer pour nous permettre de ne pas nécessairement tomber dans une interprétation, mais vraiment aller chercher des bribes d'interprétation un peu partout pour produire un sens qui est unique au livre, dans le fond. On va pas se rattacher à un genre précis, mais on va fournir des éléments un peu à une espèce de collage pour former quelque chose de unique et d'une incohérence tout de même assez lisible.
De façon conséquente, à Farah, il refuse de rassurer son lecteur.
il le rassure à la fin. Et c'est un peu malheureux, ce passage. Je suis désolée de...
Oui.
Justement,
est-ce qu'il y a une fin cohérente, une fin ficelée, ou c'est plutôt, mettons, comme dans Guétan Souci que...
Malheureusement, le dernier chapitre. Et là, c'est vraiment... c'est moi qui parle en tant que lectrice subjective. Mais il y a une fin où est-ce qu'on va ficeler les fils du récit, puis on va en faire une boucle. Et on va voir une personne qui a vécu la déprogrammation de la mémoire par Evan Cameron et ils vont nous donner les éléments pour comprendre ce qu'on ne comprenait pas jusqu'à la fin. C'est quoi cette histoire de déprogrammation? Pourquoi le temps est incohérent? Mais là, c'est excusé par les expériences, par le docteur Evan Cameron. Et oui, il y a cette fin-là où on boucle la boucle et on rassure le lecteur, malheureusement, ou heureusement, tout dépendant de notre posture. Merci.
Oui. En fait, t'as bien rendu là. Ça donne le goût de le lire, mais j'aimerais ça revenir en fait au titre questionner le personnage contemporain.
Oui.
Où situerais-tu la fragmentation puis le jeu avec le lecteur de confusion dans le personnage, en fait, les romans contemporains en général?
En général.
Son importance.
Tu veux dire que tu veux que je situe le personnage d'Alain Farah dans un panorama plus large ou...
Cette récurrence-là de la fragmentation puis de la confusion, puis le jeu de confusion avec le lecteur que les auteurs sont à voir. Enfin, si selon toi, c'est quelque chose qui définit un peu le personnage contemporain ou c'est un trait qui peut ou ne pas être là, ça n'a pas d'importance.
J'avoue avoir tendance à vouloir dire que ça définit une certaine part, un certain pan de la littérature contemporaine. J'ai l'impression aussi que dans l'histoire de la littérature, on est rendu aussi à un certain éclatement avec justement l'héritage du soupçon et ce passé-là où est-ce qu'on s'est mis à reconsidérer la place de l'être humain et donc la place du personnage dans la littérature. Et donc, j'ai l'impression que ça fait partie d'une certaine continuité de ces éléments-là, mais j'ai de la difficulté à dire que c'est rendu dans la littérature contemporaine un impératif pour écrire un personnage qu'on dit contemporain. Parce que bon, on est tellement prêt, on est tellement collé, je veux dire, ça a été sorti en 2013, cet automne, donc on est très, très, très collé sur ça. J'ai envie de dire que c'est dans une certaine filiation, pour moi en tout cas, que ça va de soi qu'on soit rendu là, ou presque. Il y a un certain éclatement aussi dans la société, dans la vision d'une certaine cité puis d'une certaine individualité à l'intérieur d'une communauté, j'ai l'impression aussi. Mais j'aurais envie juste de dire que ça fait partie d'un certain pan, peut-être pas de tous les personnages contemporains. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, oui.
OK, merci.
Peut-être une dernière intervention?
Oui. Ben, excusez, mais vous avez posé la question avant moi, je pense. Non, je
ne
dis rien, je
ne
parle plus, je reste
seul
dans mon
temps. Ok, on va y aller avec Marc-André, puis ensuite avec Nicolas.
Mais aussi, c'est ça, outre la relation narrateur-personnage, il y a toute le... Alain Farah, dans ce roman-là, exploite aussi toute sa persona persona d'auteur public, là, et son personnage de professeur Rinsen aussi. Puis, qui est... Il y a vraiment, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment, on ne l'a peut-être pas beaucoup souligné, mais c'est fait avec beaucoup d'humour. Il y a vraiment l'humour qui domine, dans la mesure où, je pense à tout le passage avec Umberto Eco. Umberto Eco qui est comme, en tout cas, caricaturé en espèce d'italien dragueur.
Ouais, vraiment charmant.
C'est-à-dire qu'il y a, c'est ça, il y a quand même une dimension biographique qui est importante, référentielle, dans la mesure où le lecteur va lire aussi le livre en relation avec la perception médiatique d'Alain Farah, c'est son statut de professeur américain.
Ouais. J'ai l'impression qu'il faut faire quand même attention à ce genre de lecture-là.
Non, c'est sûr.
Parce que, tu sais, justement, on se ramène au pacte auto-fictionnel. Mais effectivement, il y a eu énormément de succès. Et j'ai l'impression qu'il se joue de ce personnage dans la sphère médiatique. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là aussi, mais
oui.
Il devient ce Alain Farah un peu incohérent. Ou je ne sais pas si l'un et l'autre s'influencent, mais c'est sûr qu'il faut faire... J'ai l'impression qu'il faut faire attention, mais quand même, je suis d'accord aussi. Puis pour l'humour, c'est sûr, je l'ai pas beaucoup abordé, mais effectivement, j'ai l'impression que dans l'intertexte, on se joue beaucoup de ces grands canons, de ces... je sais qu'il y a un buste de Poe dans son bureau, et tu sais, ça en devient quasiment cliché, ou il y a un certain humour, effectivement, qui a pas été abordé dans ma communication, mais que je vois très bien se dessiner aussi autour de l'intertexte, notamment de se jouer de ces grands canons-là, etc. Et aussi de mettre à profit ces canons littéraires-là. À un moment donné, il va citer Duras pour expliquer son texte, et j'ai l'impression que on va s'amuser véritablement avec l'intertexte. Je ne sais pas si ça répond un peu.
Nicolas,
veux-tu
une dernière intervention?
Je vais faire vite.
Pas de problème.
Je ne fais jamais vite, c'est pour ça que ça se trouve que je dis que je vais faire vite. Une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ta communication, c'est le lien que tu as fait entre des questions qui sont de poétique du personnage, poétique narrative, puis la conception de l'être humain qui est derrière tout ça. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant. C'était une bonne manière aussi, méthodologiquement, de questionner le personnage contemporain. Puis, de façon plus spécifique à l'intérieur de ces questions-là, tu as évoqué l'intertexte dans ta dernière réponse. Puis, je me demandais, parce que tu en as parlé très rapidement, puis comment quel lien tu fais entre la question de l'intertexte, qui est une question d'ordre poétique, dans le fond, son usage à l'intérieur du roman, puis des questions de mémoire.
Oui, merci pour cette question. J'ai dû retrancher cette partie, malheureusement. Et donc, je vous explique que l'intertexte à l'intérieur de Pourquoi Bologne s'inscrit, dans le fond, met à profit cette mémoire culturelle, cette mémoire de la culture populaire, cette mémoire de la culture littéraire, pour inscrire sa propre mémoire à l'intérieur. On a parlé tantôt du buste de Poe, mais il y a aussi Duras qui va commenter l'écriture de ce texte-là à l'intérieur. Et on va aussi se servir d'Umberto Eco comme personnage, comment ça s'appelle? C'était un espèce de jeu Zero Wing, en tout cas, un espèce de jeu japonais où dans l'incipit, on va le mettre à profit pour raconter sa vie, pour raconter sa propre mémoire, et il y a une culture du monde qui est mise à profit pour construire cette propre individualité-là, et pour construire aussi cette mémoire qui est fragmentée, qui s'inspire, qui va chercher un peu partout pour affirmer sa propre individualité, pour être, pour exister. Je sais pas si ça répond à votre question, j'ai l'impression d'être un peu décousue, mais... En fait, je conclurai sur le fait que l'intertexte dans ce texte-là est mis à profit pour ériger une mémoire du personnage d'Alain Farah et pour énoncer à quel point la mémoire se construit d'éléments fragmentés et éparses, notamment la culture populaire,
la culture cinématographique, la culture littéraire dans ce texte-là. Donc, c'est aussi pour montrer l'ancrage du personnage à travers le monde qu'il habite, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça répond. Merci.
Alors, on va terminer là-dessus. Merci.